camina peregrino y váyate con Dios. Bon chemin t'es le rein, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour. C'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique hebdomadaire dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, en selle pour 25 minutes.
En selle.
Alors, on va prendre le cheval au mot. Aujourd'hui, le mot bréhaigne. Alors, cet adjectif apparaît vers 1119. Il s'applique d'abord pour qualifier une terre stérile, par la suite une femme stérile, terme qui devient injurieux vers la fin du XVIIe siècle, puis qui finit par disparaître de notre langue dans cette dernière acceptation. En revanche, il est toujours employé aujourd'hui pour qualifier une jument ou une biche stérile.
Alors souvent, oui, mais ces bréhaines sont souvent caractérielles, parce qu'elles ne sont pas faciles, elles ont un tempérament de mâle, puisqu'elles ont des crochets, en plus, ce qu'a les talons.
Voilà, c'est ça, c'est l'équivalent des canines que chez le cheval on appelle des crochets, voilà. Effectivement, et là, elle porte des crochets, voilà, des canines, alors que normalement une jument n'en a pas, quoi.
Mais non, en principe, ça sert à l'attaque, ça sert à la défense et à l'attaque.
Ça sert à l'attaque et à la défense. Et ça gêne pas, non, bien sûr, le cheval pour le mort.
Non, ça se passe bien, mais enfin, bon, ça peut-être parfois, quand les crochets sont pas bien placés, gêner pour le mort.
Ça peut gêner pour le mort, voilà. Alors, on va continuer. La guerre des Gaules, évidemment. On en avait parlé la semaine dernière. Et donc, on va un petit peu maintenant rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est le cas de le dire, parce que ça a été vif. Alors, quand Jules César arrive en Gaule en -58, il découvre une vaste région peuplée de plus d'une centaine de tribus celtes principales, donc des grandes tribus, auxquelles il faut rajouter un grand nombre de tribus plus modestes, associées ou clientes des premières. Les historiens estiment que ces populations tournaient autour de 15 millions d'habitants, donc c'est quand même pour l'époque assez important, donc dans les premiers siècles de notre ère, et occupaient un territoire qui comprenait donc la Rhénanie, donc autour du Rhin,
oui.
Voilà, la Belgique, l'Angleterre, que César appelait Britannia, la Suisse, Helvetia, une partie de l'Espagne et la France actuelle. Donc c'était quand même un territoire qui était vaste.
Oui, c'était l'Europe.
C'était l'Europe occidentale, absolument. Alors, on a parfois l'image d'une Gaule composée de tribus jalousement indépendantes les unes des autres, sorte d'image d'Épinal qui, en fait, est bien éloignée de la réalité. En fait, dès le 1er siècle avant notre ère, les tribus celtes s'organisent politiquement en pays ou cités. Donc, ils étaient pas, c'était quand même pas tout à fait Astérix. Et donc, ces pays ou ces cités sont des sortes de conglomérats de nations alliées au gré des circonstances et des intérêts. Alors là, c'est vrai que c'était fluctuant. On pouvait être allié avec l'une et puis se disputer, s'allier avec une autre, etc. Donc, c'était quand même pas inscrit dans le marbre, si je puis dire, ces alliances. Mais alors, ce système, à première vue instable et disparate, connaît au cours du 1er siècle une volonté forte et ambitieuse d'unification au sein de grandes confédérations. Celle des Éduins en Bourgogne, peut-être la plus grande, donc qui était amie des Romains et qui englobe Lutèce au nord et Avaricum à l'ouest, l'actuelle ville de Bourges. Donc c'était là un vaste territoire, ah oui. Bien sûr. Et bien sûr, pour nous, nous sommes concernés dans l'Aveyron, la Confédération Arverne, un véritable empire au IIe siècle, avant notre ère, que le père de Vercingétorix, Celtille, essaya de reconstituer vers -80 et qui finalement se réduisit en peau de chagrin pour se limiter, dès l'époque de César, au seul département du Puy-de-Dôme. Donc, après avoir été très grand, tout ça s'est rétracté pour devenir, bon, voilà, l'aire de répartition des Arvernes, c'est le Puy-de-Dôme à peu de choses près. Alors, Rome, qui cherche la maîtrise politique, économique, démographique et financière sur l'ensemble du bassin méditerranéen, comprend qu'elle ne doit pas laisser se développer sur ses frontières des États puissants capables à terme de la rivaliser, de lui contester sa suprématie. Hein. Veut pas d'ombre. Alors, le début du problème a été réglé environ un siècle et demi auparavant avec la destruction de Carthage. Ça, nous l'avons vu nos auditeurs s'en souviennent dans l'émission précédente. En 13 ans, de -58 à -45, César soumet la Gaule, l'Égypte où règne Cléopâtre, même ça sera l'amant de Cléopâtre, enfin le Bosphore. Donc le Bosphore qui ouvre la Méditerranée en direction de la mer Noire, de l'Arménie, voilà, donc c'était une bonne porte d'entrée. C'est au terme de cette dernière conquête du reste du Bosphore, quand César tient la victoire, donc il aurait prononcé devant le Sénat romain sa phrase fameuse « Veni, vidi, vici », ce qui veut dire en français « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Alors la Gaule est le premier objectif que Rome se fixe. C'est sa voisine immédiate, d'une part, dont les Romains gardent un mauvais souvenir. En effet, 3 siècles auparavant, une armée gauloise conduite par le chef Brennus avait assiégé la ville et failli de peu la conquérir. Ça avait été très juste. Alors Rome veut s'affranchir de ce probable danger.
C'est les oies qui l'ont sauvé.
Ce sont les oies, absolument, les fameuses oies du Capitole, oui, voilà. Absolument. Et puis le pognon que les Romains ont donné ensuite, oui, alors que les, voilà, c'est ça, le fameux vae victis, bien sûr. Donc Rome veut s'affranchir de ce probable danger, décide de prendre les devants. Et en moins 60, Jules César, qui a 41 ans, obtient le commandement de la Gaule cisalpine, c'est-à-dire l'Italie du Nord et du Nord des Balkans. Le prétexte d'une intervention militaire, ce qu'on appelle le casus belli, il en faut toujours, hein, quand on veut commencer une guerre, est fourni en moins 58 quand les Helvètes de la région de Genève décident de quitter leur territoire avec la plus grande partie de leur peuple. Ils projettent de retrouver les Éduins et les Séquanés, donc les gens sur la Seine, avec qui ils s'étaient entendus ensemble pour prendre le contrôle de toute la Gaule, qu'on appelle alors, c'est amusant, la Gaule chevelue. Pourquoi chevelu? Alors deux interprétations. La première, c'est parce que les Gaulois portaient les cheveux longs.
Ils avaient une réputation de
voilà. De cheveux longs. Alors que les Romains se coupaient les cheveux. Et l'autre, c'est que c'était encore un pays très très couvert de forêts. Donc, ce qui aurait donné le terme chevelu. Donc, il essaye de prendre la Gaule chevelue, ainsi que la Gaule romaine, dite la Gaule togée. Pourquoi togé? Parce que, à la différence des Gaulois qui portaient des vêtements cousus, eux, ils portaient une toge, c'est-à-dire des vêtements non cousus. Voilà. Et donc, cette fameuse Gaule togée correspond, sous le nom de provincia, en latin, c'est en fait la Provence actuelle. Hein. Provence, provincia, on est vraiment sur les termes qui ont très très peu, qui se sont très peu transformés. Alors, César apprend la nouvelle à Rome vers le 20 mars 58. Ça, c'est extraordinaire, le calendrier, hein, parce que ça va vite, hein, ça va vite. Il n'y avait pas le TGV, il n'y avait pas les avions, etc. Ça va très vite. Donc, le 20 mars 58, il apprend la nouvelle de la révolte des Gaulois de Genève. Alors, avec une seule légion renforcée par les soldats qu'il a pu recruter dans la province, il se rend immédiatement à Genève à marche forcée en remontant la vallée du Rhône. Il y arrive une huitaine de jours plus tard, à pied. Huitaine de jours plus tard. Ça y allait, hein, quand même. Hein. Là, il fait... Alors, les Romains, on comprend pourquoi c'était un grand empire qui s'est imposé. Là, donc, une fois arrivé, hein, après 8 jours en marchant, il fait élever un mur intermittent de... Alors, les chiffres nous dépassent. 19 000 pas de long. Donc, les pas romains qui mesurent 1,479 m exactement. C'est-à-dire, c'est un mur de 28 kilomètres de long. 28 kilomètres de long, haut de près de 5 mètres et défendu par un fossé.
Eh ben ça, c'est bien.
Alors, il faut voir que les légionnaires étaient des soldats, mais c'était aussi des terrassiers, des bûcherons, des charpentiers, ils faisaient tout.
Des paysans aussi.
Voilà. Hein. Et souvent, dans les marches, ils se fortifiaient en arrivant à l'étape le soir, et ils élevaient un camp avec des palissades en bois et en creusant un fossé. Enfin, c'est incroyable. Donc, il fait son mur de 28 km de long, haut de 5 mètres, et il boucle ainsi Genève, depuis le lac Léman jusqu'au contrefort du Jura, donc tu vois un petit peu la distance quand même. S'il s'agit de la rive droite, ou du lac jusqu'au pays Chablais de l'autre côté s'il s'agit de la rive gauche. Alors là, ça, César, moi j'ai bien relu la guerre des Gaules, César reste imprécis sur ce point dans ses écrits. On ne sait pas s'il a construit à droite ou à gauche de Genève, mais en tout cas, il a construit. Alors, la guerre des Gaules vient de débuter, elle durera 8 ans. L'armée romaine étonne encore de nos jours par le modernisme de son organisation. C'est une armée essentiellement composée de fantassins. Elle dispose d'une cavalerie réduite et souvent assez médiocre. Son son unité de base est la Légion, soit 10 000 hommes. Alors la Légion elle-même est divisée en 10 cohortes de 1000 hommes, chaque cohorte divisée à son tour en 100 centuries de 100 hommes, comme le nom l'indique, et dirigée chacune par un centurion, bien évidemment. Et la centurie elle-même comprend 10 manipules de 10 soldats. Donc on voit que tout ça est très, 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 très bien organisé. Alors le légionnaire est armé d'un glaive large et court pour frapper d'estoc et de taille, le gladius, d'un javelot composé d'une forte hampe, le pilum, hein, ça on le
connaît. Les chevaliers aussi avaient un javelot.
Un javelot, bien sûr, plus léger, et d'un poignard à lame large et courte. Pour sa protection, le légionnaire dispose d'un casque, d'une cuirasse faite de lames métalliques rivées sur une sorte de paletot en cuir, et d'une jupette également en cuir, épais, qui lui descend jusqu'à mi-cuisse. Donc c'est aussi une protection. Il dispose enfin d'un grand bouclier rectangulaire, l'umbo. Alors là, bon, le nom, selon Tacite, écrivain romain, l'umbo, c'est simplement la boule au milieu de la demi-sphère, au milieu du bouclier qui sert à frapper l'ennemi. Et selon Virgile, plus tard, c'est le bouclier en entier. Voilà. Donc, ce bouclier qui est grand et qui est incurvé permet quand même aux centurions, aux soldats romains, de se cacher derrière. Donc, c'est-à-dire que la protection est quand même bonne. Et l'équipement du cavalier romain, quant à lui, est plus léger. Il est armé d'une épée. Il se protège au moyen d'une sorte de cuirasse en cuir et d'un petit bouclier rond. Les chevaux, dans d'où cela? Et ben, c'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission après une pause musicale. John Lee Hooker et Carlos Santana à la guitare, chill out. Quand Jules César s'affronte aux Gaulois, Pio Germain, il est impressionné par les cavaleries que ceux-ci lui opposent. Si les Gaulois montent sans selle, les Germains, eux, en connaissent l'usage. Par contre, ils ont une selle.
Ah, mais c'était des cavaliers remarquables.
Voilà, mais
pas
des pieds.
À la voltige, voilà. Et avec tous les exercices.
Alors voilà, dans les deux cas, ce sont d'habiles cavaliers, comme tu viens de le dire, rompus à la voltige équestre, absolument. Il est aussi impressionné par le nombre de chevaux engagés. Alors tiens-toi bien, Jean-Yves, si au 3e siècle avant notre ère, les Gaulois arrivent à constituer des armées de 60 000 cavaliers,
c'est important.
Vers Saint-Gétorix, vers -53, arrivent encore à en réunir environ 26 000 pour 85 000 fantassins. Tu vois un petit peu.
Donc il y avait des chevaux dans la gorlée.
Il y avait des chevaux. Alors, ne disposant pas, nous venons d'en parler, que d'une cavalerie restreinte, César comprend rapidement l'importance d'utiliser des escadrons nombreux qu'il recrute aussi vite que possible parmi les tribus amies ou soumises. Mais on aimerait bien savoir, Jean-Yves, ces chevaux, d'où ils viennent? Alors nous nous rappelons que la domestication du cheval par les Mongols de l'Altaï et du désert de Gobi remonte à 5 ou 6 000 ans avant notre ère. 2000 ans plus tard, les premières migrations mongoles s'avancent jusqu'en Europe et laissent sur place un certain nombre de leurs fameux petits chevaux qui retournent à l'état sauvage. C'est un petit peu le coup des Espagnols.
C'était de double poney, oui, trapus, qui vivaient dehors sans problème aucun.
Alors, beaucoup plus tard, 2 siècles avant notre ère, les Carthaginois fondent des comptoirs en Espagne et introduisent des chevaux de race barbe.
Oui.
Ce sont ces mêmes barbes que les Romains introduiront à leur tour de façon assez massive dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Ça, vraiment, ils en font venir beaucoup via l'Espagne.
Ben, la course de chars, ça fait avec des barbes attelées, qui sont superbes d'ailleurs.
Alors, si l'on regarde les représentations du cheval à ces époques, on s'aperçoit que c'est un animal de petite taille, entre 1m20 et 1m35 au garrot pour les plus grands. La tête est massive, avec un chanfrein droit et des oreilles courtes et larges. L'encolure est courte, triangulaire et épaisse à la gorge. La croupe est ronde et la queue attachée basse, plaquée contre les fesses. Les membres sont courts, particulièrement les canons. Enfin, les crins de la crinière et de la queue sont de médiocre longueur, mais très très fournis, très drus. Certaines représentations nous montrent même des chevaux dont la crinière est en brosse, à la manière des
poneys fjord. Des chevaux de Przewalski,
voilà. Alors, en revanche, nous n'avons aucune indication sur la couleur des robes, puisqu'on voit ça par des statues, par des objets en bronze, mais enfin, ou en fer, mais enfin, bon, on ne sait pas de quelle couleur était leur robe. Alors, nous possédons en revanche des indications plus précises quant à la façon dont les Gaulois montaient. Et ça, c'est intéressant. Ignorant l'usage de la selle, le cavalier s'asseyait sur un simple tapis qui l'isolait de la sueur de son cheval et pratiquait ce qu'on appelle la monte en crochet. Alors, cette technique consiste à replier les jambes un peu à la manière des jockeys. L'assiette était assurée par les genoux que le cavalier serrait très fort, voilà, et par une véritable pince et par ses talons qu'il venait agripper sous les flancs de l'animal. Ce qui confirme également, comme tu l'as dit Jean-Yves, la petite taille des montures, évidemment, parce qu'avec un grand cheval, impossible de mettre talons sous le ventre du cheval. Alors tout cela est bien loin de l'équitation actuelle, bien sûr, où l'on demande de s'asseoir sur le, Jean-Yves, j'emploie ton expression, sur le derrière de son derrière.
Sur les ischions,
de bien descendre sa jambe sans la raidir et d'envelopper sans crispation les flancs de son cheval. Alors Jean-Yves, on arrive à ta leçon. Alors, il convient, c'est le général de Carpentier qui a dit ça, donc à la fin du 19e siècle, il convient que les aides soient non seulement discrètes, mais secrètes. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur cette phrase?
Ah, mais pour discrète, je suis d'accord, on n'a pas téléphoné les cours, ça doit être vraiment très, très, très précis, et à propos surtout, c'est surtout à propos qui compte, donc à propos c'est quand il faut, au moment où il faut, pas avant ni après, mais pendant. Voilà. Et puis, secrète, non, moi je pense que ça doit pouvoir s'expliquer, si c'était peut-être pas un pédagogue, monsieur de Carpentier, parce que ça doit pouvoir s'expliquer. Tout s'explique en équitation, absolument tout. Et pour pouvoir faire participer, donc il faut pouvoir expliquer clairement.
Alors je pense que pour lui, c'était qu'effectivement, le spectateur ne devait voir aucun mouvement du cavalier.
Oui, il n'avait pas de mouvement involontaire surtout. Donc c'était des mouvements très très précis et très commandés.
Voilà. Très précis et très commandé. Bon, on imagine aussi que c'était quelque chose qu'il faisait plutôt quand il était vu.
Ce qui est l'inverse.
Je pense que le travail à la maison, c'était peut-être un petit, surtout sur un jeune cheval, c'était peut-être un peu, les aides étaient peut-être moins secrètes.
Voilà, c'est qui est l'inverse du balan. Quand on n'est pas très en équilibre, quand on ne sait pas trop, on a des gestes qui ne sont pas appropriés et qui ne vont pas avec le mouvement.
D'accord. Alors, Ilis te demande, Jean-Yves, pourquoi tu dis toujours, 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 et ça, moi aussi, il n'y a pas qu'Élise, hein, plein de gens t'ont entendu, alors que tu dis toujours que la reine d'ouverture est la reine des reines.
C'est vrai.
Au risque de passer avec cette question, te dit Élise, j'ai peur de passer avec cette question que je te pose, Jean-Yves, pour la reine des pommes.
C'est la reine du début et c'est la reine de la fin. C'est la reine du début, pourquoi ? Parce que c'est la reine du poulain. Le poulain qui ne connaît rien, qui ne sait pas. Quand on ouvre le couloir des aides d'un côté en attirant le bout du nez de ce poulain ou de ce cheval vers le côté gauche, il va vers le côté gauche quand on sait lui expliquer clairement et à propos. Et puis, bien sûr, c'est la reine de la fin quand un cheval a été torturé, mal monté. Et bien, c'est la reine qui lui permet de le redresser, de lui redonner envie de faire des choses.
Parce que c'est une reine assez délicate quand même à exécuter. Il faut déjà avoir une très bonne assiette.
Oui,
sinon...
il y a une ouverture du couloir, une ouverture du corps. Le regard doit aller dans la direction. Le bassin et le centre de gravité doivent aussi se tourner dans la direction qu'on indique. Quand on va aller à gauche, il faut tourner tout le corps vers la gauche et le centre de gravité vers la gauche en attirant le bout du nez du cheval à gauche. Mais dans la propos, dans le mouvement, ça se fait pas contre le cheval, mais avec le cheval. C'est une reine qui ne prend pas sur l'impulsion. On ne coince pas. On ne bloque pas, au contraire, on est avec, et c'est la, pour ça que c'est la reine des reines. Les deux elfées qui ne prennent pas sur l'impulsion, c'est la reine d'ouverture et la reine d'appui, qui pousse en cadence et à propos aussi. Puis les autres, après, bien, ça oppose. Donc on ne peut pas opposer et être avec.
Bien sûr, on peut pas dire avance et puis je te retiens. Voilà. Alors, le dicton de la semaine, les portes de l'art équestre, c'est de la poésie, hein, les portes de l'art équestre ne s'ouvrent jamais dans l'excitation, mais toujours dans l'apaisement.
Oui, bien sûr. Comme les mots-clés sont calmes, en avant et droit, calme, ça s'adresse aussi au cavalier. Si le cavalier n'est pas assuré de ce qu'il veut faire, s'il n'est pas en position d'équilibre, et s'il est tendu, s'il a du ballon, il va exciter son cheval, qui ne comprendra pas du tout. Donc, le calme, c'est la sérénité, c'est le cheval qui agit quand il faut, au moment où il faut. Donc, il ne s'emploie pas à tort, il ne fait pas la bataille avant, mais il la fait pendant.
Donc c'est le cheval qui est en confiance, voilà, donc prêt à collaborer et à communiquer avec son cavalier. Les choses passent dans les deux sens en fait.
Tout à fait, voilà. Oui. C'est aussi bien pour le cavalier que pour le cheval.
Voilà. Donc il faut aussi que effectivement le cavalier soit calme.
Oui, bien sûr. Voilà pourquoi on dit toujours à un jeune cavalier un peu excité, il faut un vieux cheval qui accepte parfois quelques mouvements
involontaires. Et quelques erreurs.
Et quelques erreurs. Et le contraire, un vieux cavalier, un jeune cheval. Pour lui apprendre justement tout ça.
Il a suffisamment d'habitude, d'expérience et puis de qualité d'assiette pour pouvoir effectivement tempérer ce qu'un jeune cheval peut avoir de désordonné dans ses premières évolutions.
Absolument.
Alors, merci Jean-Yves.
Le calme attire la confiance.
C'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mercredi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder avec vous sur les longs chemins de l'alliance incroyable nouée entre un cheval peureux et les meilleurs d'entre nous qui s'y sont passionnés au cours des siècles, non pour l'exploiter, mais pour le sublimer. Sur CFM Rodez 107.9 et sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Hey, hey, marche droit et souris, ton cheval est un ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. tu as perdu, ce en quoi tu ne croyais plus. Suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Sur la route du sel, d'aigle mort à Rodez, en passant par Salmière, du langue d'Ocoroègue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Nyonne, les Vézous, Salmiège, milieu du sel. Patrie de Béranger, de Landore, capitale du Roer de Rodez, entrée dans la légende de la route du sel. Entrée dans la légende de la route du sel.